Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, je salue Aminata. Salut Aminata.
Hello tout le monde.
Je salue également Rémi.
Salut.
Salut Rémi. Et Gildas, salut.
Salut.
Gildas, notre stagiaire de la semaine qui présentera en fin d'émission l'agenda de votre soirée. Et bien sûr, vous retrouverez la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Quelle est votre approche du sexe? Internet a-t-il changé vos rapports au porno? Les filles se masturbent-elles plus qu'avant? Les pratiques du X ont-elles désormais leur place dans vos parties de jambes en l'air? Un sondage IFOP publié à l'automne s'est questionné sur le comportement sexuel des jeunes de 15 à 24 ans. Plus de 1000 jeunes ont été interrogés via un questionnaire sur le web pour tenter de dresser leur portrait au lit. Nous avons téléphoné à François Cros, directeur d'études au département Opinion de l'IFOP, qui a réalisé ce sondage. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'écouter le micro-trottoir de Mathilde, qui est allée confronter certains résultats de cette enquête aux étudiants. Réaction.
L'âge moyen du premier rapport est de 17,3 ans. Est-ce que tu penses que c'est trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors déjà, je suis plutôt étonnée parce que je pensais que c'était beaucoup plus jeune que ça. Après, je parle pas en fonction de chiffres, moi. C'est plutôt si la personne est prête ou une chose comme ça. Je vois pas d'inconvénient. Je trouve pas l'âge spécialement en avance ou trop tôt, trop tard, non.
Non, mais je pense que c'est plus tôt. En général, je pense qu'il est vraiment plus tôt.
Pour les filles et les garçons?
Ouais, peut-être plus pour les garçons que pour les filles, mais il est plus tôt.
13% des jeunes ont déjà été filmés ou ont déjà filmé des gens nus ou dénudés. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est énorme. Énorme. Enfin, je trouve ça hyper malsain.
Ah ouais?
Ça fait beaucoup, je trouve.
Quoique, bah non, pas forcément. Genre ton copain, il prend son téléphone.
Mais ouais, moi, c'est un choc, je pensais pas qu'il y en avait autant.
47% des jeunes de 15 à 24 ans ne sont jamais allés sur des sites porno ou où on cherchait des images pornographiques sur Internet. Et 39% l'ont fait plusieurs fois. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est un petit peu rentré dans la culture maintenant, étant donné qu'il y a les nouvelles technologies et tout ça, dont Internet, c'est un petit peu devenu très accessible.
Ça me choquerait pas de savoir que c'est plus de garçons qui ont répondu que de filles.
Moi, avec des potes, j'y suis allée. C'est tout.
Une fois?
Ouais. Ouais, moi aussi, forcément, j'ai déjà... J'ai déjà été voir, ouais.
Le petit aveu qui soulage. À présent donc, je vous propose d'écouter François Cros de l'IFOP qui a réalisé cette enquête Génération YouPorn, mythe ou réalité sur l'influence des nouvelles technologies sur les comportements sexuels des jeunes. François Cros, votre enquête s'intitule Génération YouPorn, entre mythe ou réalité. Vous avez étudié les pratiques sexuelles de 1000 jeunes de 15 à 24 ans via un questionnaire en ligne. Selon vous, les réponses auraient été faussées si vous l'aviez fait autrement, cette enquête?
Oui, naturellement, quand on doit mesurer des pratiques qui peuvent être perçues comme transgressives ou pas forcément conformes à la morale dominante, on a une tendance à la sous-déclaration lorsqu'on a une tierce personne présente lors de l'interrogation. Vous voyez?
Oui. Alors, dans cette étude-là, il y a plusieurs chiffres qui sont à noter, parmi lesquels 51% des hommes interrogés et 26% des femmes ont déjà vu plusieurs fois des films ou des images pornographiques. Selon vous, est-ce que ça s'est démocratisé? Est-ce que c'est entré dans les esprits?
Alors, en fait, on a, avec le développement des nouvelles technologies et aussi de certains supports, hein, comme les smartphones ou les tablettes, à la fois une démocratisation et une personnalisation de l'accès à ce type de contenu, qui fait que non seulement l'accès est gratuit, mais en plus il est de plus en plus confidentiel. Donc les nouvelles technologies ont vraiment favorisé une certaine banalisation de la consommation de pornographie, qui autrefois nécessitait quand même un accès, quand même un peu une confrontation à une tierce personne, par exemple dans un vidéoclub, ou alors il fallait quand même l'acheter, le visionner sur l'ordinateur familial. Maintenant, tout le monde peut le consulter directement sur son smartphone, par exemple.
Il y a une autre pratique qui a significativement augmenté d'après votre étude, sont les pratiques masturbatoires qui atteignent 73%. Est-ce que ça signifie qu'on l'assume davantage ou qu'on le fait davantage?
Alors ça, nous, quand on fait une enquête, malheureusement, on ne mesure que ce qui est admissible, hein, et on ne sait pas si dans le passé c'était moins ou plus admissible que maintenant. Ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours un écart très net sur ce type de pratique entre hommes et femmes, mais que progressivement, les comportements féminins en la matière tendent progressivement, je dirais très doucement, à s'aligner sur les comportements masculins. Même si, bon, la masturbation reste toujours un grand tabou de la sexualité féminine.
Et en parallèle, on constate dans votre étude l'apparition de nouvelles pratiques devenues pas fréquentes, mais qui atteignent des chiffres considérables, comme la pratique de la bifle ou de l'éjaculation faciale. Est-ce que vous y voyez un rapport de cause à effet avec la démocratisation de la pornographie?
Oui, parce qu'il s'agit vraiment de pratiques associées à la culture porn et à l'univers du X. Hein. C'est vraiment spécifique au code et à la scénographie de la pornographie. Et c'est des pratiques qu'on ne voyait quasiment pas auparavant dans toutes les autres formes de production culturelle érotique, que ce soit l'écrit ou même les films érotiques des années 70-80. Donc c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la culture porn et qui se banalise. En tout cas, c'est des pratiques minoritaires, mais qui ont tendance en tout cas à apparaître maintenant de manière significative.
Et est-ce que vous faites le même constat en ce qui concerne la hausse de la pratique de la sodomie ou des rapports bucogénitaux?
Alors c'est plus diffus, on ne peut pas forcément sur ce plan-là attribuer l'origine de la diffusion des pratiques orales ou anales uniquement au porno. On peut penser que ça a pu les populariser, mais par exemple sur la fellation, il y a tout un changement d'image et de perception des pratiques bucogénitales au cours des 30-40 dernières années. Hein. Jusqu'au début des 80, ça pouvait être quelque chose qui avait quasiment des professionnels. Hein. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez banal pour toutes les jeunes filles de notre génération.
Et comment on explique ça, justement?
Il y a un renversement d'image. Vous savez, pendant longtemps, on observait en Europe une vraie différence sur la pratique de la fellation entre l'Europe du Nord, où elle était beaucoup plus banalisée, admissible socialement, et l'Europe du Sud, où elle était, c'est lié à la culture latine, on trouvait déjà ça à l'époque romaine, où elle était beaucoup plus tabou parce qu'il y avait un rapport à l'oral et qui était différent. Et on avait encore ce débat lors de l'affaire Monica Lewinsky et Clinton, où pour beaucoup, une fellation n'était pas un rapport sexuel, alors que dans d'autres cultures, ça l'est.
Il y a un chapitre dans votre enquête qui est très étonnant, enfin, c'est celui qui porte sur les positions sexuelles. Alors, le trio de tête, c'est le missionnaire, suivi de la levrette et de l'andromaque. Et vous analysez ces pratiques au regard de plusieurs critères, dont le niveau de diplôme et de la catégorie socio-professionnelle. Et on s'aperçoit que les jeunes les plus diplômés ou les plus haut placés en termes de catégorie socio-professionnelle sont ceux qui pratiquent le plus la levrette et l'andromaque. Comment est-ce que vous expliquez? Et déjà, comment est-ce que vous avez pensé à analyser ces deux chiffres en parallèle?
Oh bah parce que le niveau d'éducation est quand même et que le niveau socioculturel est quand même un déterminant non négligeable des pratiques sexuelles. Hein. Les pratiques sexuelles, c'est loin d'être des pratiques purement physiques. Hein. L'activité sexuelle est étroitement corrélée aux représentations qu'on en a. Et celle-ci varie beaucoup selon les cultures ou selon le niveau culturel ou intellectuel. On le voyait, par exemple, sur la pratique de la fellation, pendant longtemps, c'était quelque chose qu'on voyait plus fréquemment, qu'on observait plus fréquemment chez les filles des milieux plutôt aisés ou diplômés, alors que dans les milieux populaires, il y avait une certaine réticence à une pratique qui pouvait renvoyer les filles vers quelque chose qu'on demandait vraiment qu'à des professionnels ou à des prostituées. Vous voyez?
Et c'est la même chose pour les positions?
Alors pour les positions, les choses sont un peu plus sont plus aussi tranchées. Hein. Mais bon, on peut observer en tout cas une certaine facilité à inverser les rôles d'actifs ou de passifs dans les catégories supérieures. Alors que dans les catégories populaires, on est peut-être sur des schémas un peu plus traditionnels.
Autre chiffre consacré au rapport avec une personne du même sexe, 10% des personnes interrogées ont déjà essayé, mais seulement 3% s'estiment homosexuelles ou lesbiennes et 6% bisexuelles. Alors ça veut dire que 10% ont testé pour voir et qu'en fait il n'y en a que peu qui se revendiquent.
Voilà, il y a une grosse différence, hein, dans plusieurs manières d'observer et de mesurer l'orientation sexuelle. Hein. Il y a le fait de, ce qui est un peu la partie émergée de l'ASVR, le fait de s'affirmer soi-même comme homosexuel et de reconnaître cette identité sexuelle. Mais on peut ne pas se considérer comme tel et avoir une activité physique ou fantasmatique de nature homosexuelle. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on a un décalage entre l'attirance, qui est généralement le niveau le plus large pour mesurer le potentiel d'homosexualité d'une personne. Ensuite, on a la pratique. Mais on peut rester ou se considérer comme hétérosexuel ou bisexuel ou même refuser toute forme d'identité sexuelle tout en ayant une pratique parfois avec des personnes du même sexe. Et enfin, comme je vous l'expliquais, uniquement s'affirmer comme tel.
Et votre étude étant titrée « Génération YouPorn », tout un point est bien sûr consacré aux sites internet et aux pratiques sexuelles qui y sont liées. Le premier chiffre significatif, c'est qu'un quart des jeunes interrogés a déjà eu une conversation érotique avec des personnes qu'elles n'ont jamais vues en réalité. En fait, c'est parce qu'elles considèrent que c'est pas grave de juste discuter ou... Comment vous interprétez ce chiffre ?
Comment vous dire ? Le problème là-dessus, c'est que on est sur du déclaratif. Hein. Les gens répondent un petit peu... Ce qu'ils veulent, on n'est pas forcément en mesure exactement de mesurer quels sont les comportements des gens en réalité. C'est pour ça qu'il faudrait mettre une caméra ou un suiveur sur tous les ordinateurs de France.
Mais vous considérez que c'est une part importante, ce chiffre-là ?
Ça montre en tout cas qu'il y a de plus en plus l'intégration des nouvelles technologies dans à la fois les modes de rencontre, hein, les moyens de rencontre, mais aussi... ce que montre aussi l'enquête, y compris dans les jeux sexuels où on a de plus en plus de personnes qui ont des jeux sexuels avec des partenaires ou avec des inconnus qui avec qui ils échangent par internet, par un biais de webcam ou de messages instantanés.
Et les jeunes restent quand même prudents puisque si 13% se sont déjà filmés ou photographiés partiellement nus, seulement 2% ont diffusé ces images. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine prudence, non, par rapport au web?
Oui, bien sûr, on a le phénomène du porn revenge, du sexting, etc., qui peut faire beaucoup de dégâts, notamment chez les très jeunes, en milieu scolaire. Donc, on sait hein, que beaucoup de jeunes ont déjà observé, ou se sont déjà échangé des photos, mais de là à que ce soit des photos d'eux, il y a un fossé.
Et enfin, assez paradoxalement, l'âge du premier rapport sexuel reste stable, lui, 17,3%, ça veut dire quoi ? Ça reste une étape assez symbolique, voire sacrée ?
Alors ça, je peux pas le juger. En tout cas, c'est intéressant. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, on n'observe pas forcément une baisse de l'âge hein, du premier rapport. Mais ce qu'on observe, c'est quand même une baisse de l'âge du premier baiser ou du premier porno observé d'une manière ou d'une autre. Donc on a aussi, au-delà même de l'activité sexuelle, une certaine radicalisation ou des pratiques qui sortent de l'ordinaire, en tout cas qui pouvaient paraître à l'époque un peu plus transgressifs ou radicales comme les pratiques orales ou anales, qui viennent plus tôt que dans le passé.
Alors finalement, François Cross, Génération YouPorn, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?
On peut pas généraliser à toute une génération les pratiques issues de la culture porn. Celles-ci restent minoritaires. C'est quand même dans la plupart des cas, chez les jeunes, hein, tous n'ont pas une activité sexuelle calquée exactement sur ce qu'on observe dans les pornos. Il y a encore un vrai décalage. Ils sont capables de dissocier une grande partie des choses qu'ils observent dans les films pornos. Il n'en reste pas moins qu'il y a une tendance à la hausse et que les jeunes ont de plus en plus tendance, et ceci de manière précoce, à intégrer des pratiques ou des positions qu'ils observent dans les films X.
Merci beaucoup François Cross d'avoir pris le temps de répondre à Radio Campus Angers.
Merci.
Vous entendiez donc François Cros à propos de l'enquête Génération YouPorn, mythe ou réalité. Libre à vous d'aller vous comparer. Vous trouverez les résultats de cette enquête en ligne. Tout de suite, on écoute Métronomie, The Upsetter. Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers le jeudi avec Rémi, c'est économie.
Tout le monde en a déjà entendu parler, des bulles spéculatives. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez. Et si vous savez ce que c'est, eh ben, restez quand même. S'il vous plaît, vous n'allez pas le regretter.
Ah oui Rémi, ta chronique est si intéressante, si passionnante, si captivante, si...
Il suffit. Les bulles spéculatives donc. On les retrouve à chaque crise financière et leur fonctionnement est à peu près le même à chaque fois. Et pour bien comprendre comment ça marche, rien de tel qu'une petite histoire. Celle de la première bulle spéculative connue. En 1634, dans un des premiers pays capitalistes au monde, en Hollande, de riches bourgeois se prennent d'affection pour une tulipe très belle qu'ils veulent tous voir fleurir à Amsterdam. Or, comme les bulbes de tulipes doivent se développer avant de donner naissance à ces bijoux, on s'organise pour acheter en avance des tulipes. Une vraie folie vient à s'emparer de ce marché de la tulipe. Tout le monde veut acheter de la tulipe, si bien que son prix s'envole. Et c'est là que le mécanisme de la bulle se met en place. Certains individus vont se mettre à vouloir acquérir de la tulipe, non pour eux, mais pour pouvoir ensuite la revendre à un prix plus élevé. Bah oui, les prix montent, donc ils vont continuer encore un petit peu à monter. Allez, j'achète. Les prix continuent à monter, la valeur de ma tulipe augmente. J'achète encore, donc le prix de la tulipe augmente encore. La bulle se forme et gonfle, gonfle. Et quand je vais revendre toutes mes tulipes, comme le prix se sera encore envolé, je vais me faire un pognon fou. Et on arrive comme ça 3 ans plus tard, en 1637, avec un prix de la tulipe qui a cru de 5900%. Et c'est là qu'il y a un mec, les affaires ça reste un truc de mec, faut pas déconner. Que dis-je ? Un imbécile, un idiot, oserais-je le dire, un foutriquet, qui, pour je ne sais quelle raison, se met à revendre sa tulipe. Ça lui plaît plus, c'est le chardon qui est tendance maintenant, bref, il vend. Les autres mecs qui ont investi dans la tulipe se mettent à douter. Tiens, il y a quelqu'un qui vend, le prix de la tulipe augmente moins vite. Il vaudrait peut-être mieux que je revende maintenant avant que le prix ne baisse. Allez, c'est décidé, je vends tout de suite. Quoi ? Tu vends ? Merde, moi aussi alors. Tout le monde se met à vouloir revendre ses tulipes. Du coup, le prix baisse, ce qui incite les mecs à revendre plus et plus vite. Le prix s'effondre, la bulle éclate, c'est le crack. Beaucoup perdent tout en ayant tout misé sur la valeur montante de la tulipe. D'autres gagnent tout en ayant revendu au bon moment.
Mais c'était prévisible, non ? La valeur de la tulipe n'allait pas augmenter indéfiniment.
Oui, mais si on ne s'était pas lancé dans cette affaire juteuse, on en aurait vu d'autres qui eux auraient gagné beaucoup, même s'ils n'en avaient que le sentiment en fait, puisqu'en fait, la tulipe, dont le prix augmente, elle reste la même, elle conserve sa valeur intrinsèque. Mais on se croit plus riche en la possédant puisqu'elle gagne de la valeur. C'est ce qu'on appelle un effet de patrimoine positif. Lorsqu'on se sent s'appauvrir, on parle d'effet de patrimoine négatif. Et c'est cet effet de patrimoine qui guide le marché. Rien d'autre, sinon des considérations irrationnelles, des comportements moutonniers ou des esprits animaux, comme disait ce génial économiste qui était Keynes. Ce phénomène de bulle spéculative se retrouve dans toutes les crises financières. Seulement, ce n'est plus sur des tulipes que l'on spécule, mais sur des actifs financiers, des titres de dette, des actions, des produits financiers, leurs assurances. Pour résumer, une bulle spéculative, c'est comme si vous montiez sur un gratte-ciel, et comme vous ne voulez pas sauter du premier étage, vous montez encore sans jamais vouloir descendre. Puis vous arrivez au dernier étage où les 3 parachutes ont déjà été pris par d'autres. Pas le choix, il faut sauter.
Merci Rémi, j'ai tout compris.
Alors collecteur, 163. Toujours sur le mur du cimetière. Alors le problème c'est que j'essaie d'en récupérer d'autres, mais certaines personnes les arrachent ou les déchirent, donc j'arrive pas à en récupérer plus pour ma collection.
J'ai vu des traces, le pot de colle qui était bien dans la neige et tout le truc. J'ai dit, en revenant, j'ai dit quand même, là, c'est quand même trop frais. Donc...
On voit dans les journaux qu'on cherche des significations, etc. Il me semble que ça propose quand même autre chose à réfléchir que l'identité, que de trouver quelqu'un, quoi, finalement, vous voyez. Non, vous trouvez pas ?
C'est un mystère qui dure depuis 4 ans dans un village normand de 140 habitants. Chaque semaine, une affiche collée clandestinement sur le mur du cimetière. Pourquoi ? Par qui ? Deux journalistes fraîchement diplômés ont mené l'enquête et sortent ces jours-ci un web documentaire, fruit de longs mois de travail et de planques interminables, afin de peut-être, enfin, lever le mystère de Crimouville. Bonjour Romain Genticou.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, jeune diplômé, et vous sortez avec votre collègue Charles-Henri Groux le web documentaire Le mystère de Grimouville. Alors, c'est quoi le mystère de Grimouville ?
Alors, Grimouville, c'est un petit village en Normandie de 140 habitants où, pendant 4 ans, sur le mur du cimetière, toutes les semaines, dans la nuit du vendredi au samedi, un anonyme se levait pour coller une affiche avec un numéro qui augmentait toutes les semaines, et ça a duré 4 ans sans que personne ne sache de qui il s'agissait ni à quoi correspondaient ces chiffres.
Ça a duré 4 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus d'affiches en ce moment qui sont collées sur le cimetière ?
Non, il n'y a plus d'affiche en ce moment. En gros, depuis que nous nous sommes intéressés à ce mystère, il n'y a plus d'affiche. La dernière affiche qu'il y a eu collée sur le mur du cimetière de Grimouville, c'est après notre passage une affiche qui disait « Deux mercenaires ont mis à mort la liberté d'expression ».
Ok. Et c'était allé jusqu'à combien alors ?
Le dernier numéro, c'est 196 de mémoire.
Et vous pensez qu'il aurait continué si vous n'aviez pas mis votre nez là-dedans ?
Oh, certainement, oui.
Comment vous avez eu vent de ce mystère à Grimouville ?
Alors, mon collègue Charles-Henri est normand et ses grands-parents ont une maison de vacances à Grimouville, en fait. Grimouville, c'est pas loin de Coutances. Et donc, il a passé plusieurs vacances là-bas et donc il a vu de visu cette affiche avec ce chiffre et ça l'intriguait un petit peu. Et il m'a proposé le sujet, tout simplement.
Alors, il vous a proposé le sujet, vous étiez encore à l'école, au centre de formation des journalistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le début de cette histoire ? Au début, c'était un reportage pour l'écrit, en fait.
Oui, en fait, au départ, donc on était en deuxième année au centre de formation des journalistes de Paris, en spécialisation presse écrite multimédia, tous les deux, et avec nos collègues du CFJ, on préparait un MOOC, c'est-à-dire un magazine book, ces revues comme 21 qui se vendent en librairie, et donc on devait réaliser des reportages longs ou des enquêtes, et j'étais en tandem avec Charles-Henri, et alors qu'on cherchait des sujets, on galérait un peu pour trouver un reportage qui nous plaisait, il est venu me voir un jour en me disant « Bon, j'ai un truc à te proposer, mais tu vas peut-être te marrer. » Et il m'a proposé ce sujet donc en me parlant de Grimouville et qui passait ses vacances là-bas et que ce chiffre l'intriguait. Et moi, je lui ai dit « C'est absolument génial, il faut absolument y aller. » Et encore mieux qu'un reportage écrit, on devrait en faire un webdoc avec de la vidéo parce que c'est hyper visuel et c'est hyper amusant, quoi.
Et alors, vous avez tourné pendant ce reportage pour l'école, en fait ?
Oui, exactement. La première fois qu'on y allait, c'était du coup en novembre 2012. On a tourné avec le matériel du CFJ, les caméras et dictats du CFJ. On y allait en tout, on y allait trois fois, du coup. Trois fois, il me semble. Et les deux premières fois, oui, c'est quand on était encore au CFJ.
Et les deux premières fois, est-ce que vous avez vu le colleur d'affiche ?
Alors, la première fois, on y allait comme des fleurs, gentiment, en rencontrant tous les habitants du village et en leur demandant ce qu'ils savaient sur ce chiffre, s'ils en avaient marre, si ça les intriguait, etc. Donc, on est resté 4 jours, je pense, la première fois. Et on a passé la nuit, vu qu'on avait zéro indice, on a décidé de faire ce que personne n'avait fait, c'est-à-dire de passer la nuit devant le cimetière avec des réchauds et des couvertures pour attendre le serial caller, comme ils l'appellent là-bas. Et visiblement, on avait fait un peu trop de bruit dans le village puisque en interrogeant tout le monde, il avait dû avoir vent que nous étions pas à sa recherche, mais du moins que nous étions intéressés par son travail. Et il n'est pas venu le premier vendredi, il n'est pas venu, donc on a attendu jusqu'à, je pense, 8h du matin, et il n'est pas venu. Donc on est reparti tout penaud à Paris, et il a collé son affiche dans la nuit du samedi au dimanche, une fois qu'on était parti. Donc on était un peu déçus, mais ça nous a pas démoralisé, puisqu'on est reparti du coup le week-end d'après, sans prévenir personne ce coup-là. On s'est bien planqué dans la maison pour que personne ne voit qu'on était revenu à Grimouville. Et on a repassé une autre nuit dans la voiture devant le mur du cimetière, donc le vendredi suivant. Et là, nous avons effectivement rencontré ce colleur d'affiche.
Voilà, on n'en dira pas plus pour pas spoiler le web documentaire. Simplement, comment réagissaient les habitants de Grimouville quand vous leur posiez cette question-là ? Comment ça fait du bruit dans le village ?
Alors, ça a fait pas mal de bruit au tout début. Nous, quand on y allait, ça faisait déjà 4 ans que les affiches étaient collées. Donc, au niveau local, c'était un peu retombé, quoi. Les gens, soit ils prêtaient plus attention, voilà, soit ça les intéressait plus. Mais de ressortir un peu le sujet et d'avoir des journalistes, parce qu'ils en ont eu quand même au tout début, ils avaient eu la presse locale, c'est-à-dire Ouest France, La Manche Libre, et je crois qu'ils avaient eu France 3 et même M6, et que nous, on revienne un peu 4 ans après. En gros, il y en a que ça a énervé, clairement, qui ne voulaient pas en parler, que ça agaçait, et d'autres que ça amusait, quoi. Mais de façon générale, ils avaient un petit peu oublié ces affiches devant lesquelles ils passaient tous les jours.
Alors après ce reportage et puis après le passage presse écrite à l'école, vous avez présenté votre projet au FIGRA, qui est un prix en fait.
Oui, en fait le FIGRA c'est le Festival International du Grand Reportage d'Actualité qui a lieu tous les ans au Touquet. Et pour leur édition 2013, ils avaient créé un prix qui s'appelle le prix Inside Web et Doc, où ils récompensaient 3 projets de web documentaires, c'est-à-dire des web documentaires qui n'étaient pas encore réalisés. Et on nous avait suggéré de présenter le mystère de Grimouville, ce qu'on a fait. Et donc on a remporté ce prix à notre grande surprise et à notre grande joie. Et on a dû, du coup, c'était inhérent au prix, faire une collecte de crowdfunding, une collecte pour récolter des fonds pour financer le web documentaire.
Et c'est comme ça que vous avez financé votre webdoc qui sort dans les jours qui viennent, demain sans doute ?
Oui, demain, si tout va bien. Il sort demain sur le site de France Bleu, ainsi que sur Télérama et Rue 89. Et c'est ainsi qu'on l'a financé. Et mieux que ça, plus qu'une campagne de crowdfunding, ça a été... c'est parce que nous, on désirait pas forcément le financer comme ça au départ, mais ça a été une vraie campagne de com, involontairement en fait, parce que beaucoup de gens ont entendu parler de notre web documentaire, y compris dans les médias, grâce à la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank.
Et alors finalement, si ça se trouve, ça va faire venir plein de monde à Grimouville dans les vacances à venir, non?
Peut-être, mais malheureusement, il n'y a plus d'affiches sur le mur du cimetière. Par contre, il y a encore quelques mystères à résoudre autour de Grimouville, puisque dans les villages... autour de Grimouville, il y a des cercles qui sont dessinés sur les panneaux d'affichage, des cercles blancs qui sont soit peints sur les panneaux d'affichage municipaux, soit découpés dans les affiches électorales, etc. Et ça, nous en sommes pas intéressés, donc le mystère est à celui qui veut le prendre.
Et ce sera pas vous ?
Non, ce sera pas nous, celui-là. On le laisse.
Merci beaucoup Romain Genticoud d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Ben merci à vous.
Vous pourrez regarder le web documentaire Le Mystère de Grimouville à partir de demain sur le site grimouville.francebleu.fr si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Tout de suite sur Radio Campus Angers dans le sous-marin, on écoute The Soul Rebel Brass Band avec 504.
Yo, yo, it's about that time that we dedicate one right here to the 504. I'm talking about East Bank, West Bank, Uptown, Downtown, everything under the 504, you know what I'm saying?
We talking about Metairie, we talking about New Orleans East, we talking about LG.
Anything 504, when you pick up that cell phone and it's 504 on your phone, this joint right here for you. Check it out.
Come on.
It's groovy.
Oh, 601.
Come on, just groove with me.
8-1.
Just groove with me. Come on, just groove with me.
CCC, baby.
Come on, just groove with me.
You already know.
Come on, just groove with me. Baby, groove. Baby, groove.
Come on.
Oh,
yeah.
Just groove.
Just groove.
Just
Vous écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers, on est jeudi et c'est l'heure de retrouver Aminata et son périscope. Aminata épluche les médias chaque semaine, cette semaine dans la presse on parle forcément des élections municipales et du remaniement.
Après les résultats du second tour des municipales, très largement emmenés par la vague bleue qui touche aussi Angers, c'est la déroute du Parti Socialiste. La gauche perd 155 villes de plus de 9000 habitants.
Et comment la presse a interprété cette reprise du pouvoir par la droite ?
Les journaux sont intransigeants, et oui, car cette sanction était prévisible selon Alsace. Le président est incapable de convaincre jusque dans son propre camp. Pire pour le républicain lorrain, cette dérouillée électorale saute la défaite du hollandisme. Et Alexis Brézet, dans son édito au Figaro, constate « Le premier tour avait été cruel pour François Hollande, le second est assassin ».
Après les vives réactions des quotidiens français, vient le temps des interrogations pour les uns et des certitudes pour les autres.
La Montagne et la Croix se demandent « Que va faire François Hollande ? Un remaniement suffira-t-il à signifier le changement ?» Pour Libération, la réponse est claire. Le remaniement est incontournable. Pour le républicain lorrain, emmené par Pierre Fréhel, le remaniement reste la seule, l'unique solution qui reste au président. Il nous dit « Il va lui falloir aller bien au-delà d'un simple remaniement, si habile soit-il pour retrouver un crédit déjà bien entamé. Il doit absolument redonner des garanties par des actes forts, poussant la relance une machine France, en sérieuse difficulté, qui produit pour l'heure beaucoup plus de chômeurs que d'espoir de reprise. »
24 heures à peine après le résultat catastrophe des municipales pour la gauche, François Hollande a pris une décision.
Un remaniement. Et oui, le fameux « ça y est, il est fait, il est bien là », celui que la presse attendait tant. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault a été remplacé par Manuel Valls. Alors bien sûr, toutes les unes des journaux lui sont consacrées. Et c'est un peu à qui trouvera le meilleur jeu de mots, ou pas d'ailleurs. Alors, il y a les jeux de mots faciles. Metro News, Valls mène la danse. Libération, Ayrault Valls.
Une valse à 10 ans. Une valse à 3 temps.
Non, là Rémi, tu t'égares. Pour la province, un peu plus subtil, valse nouveau Ayrault de Hollande.
Mais finalement, qu'est-ce que pensent les journaux de ce changement ?
Les journaux décortiquent, analysent, décryptent les enjeux, les ambitions de Manuel Valls. Les éditorialistes font l'éloge du nouveau Premier ministre pour Hervé Favre dans La Voix du Nord. François Hollande a choisi un homme à poigne, chargé de faire oublier très vite les 2 années de couac incessant. Selon les Échos, il est organisé, méthodique, travailleur et expert en communication. Encore pour Midi Libre, il sait gérer les crises, alimenter le débat public et se trouve être l'un des rares ministres qui réfléchit en dehors de ses attributions. Éric Découty pour Libération conclut. Le président a tranché comme un chef. Dans la stratégie présidentielle, Valls incarne au fond la cohérence et le professionnalisme qui ont manqué jusque-là. Enfin, voilà une décision prise par le président que la presse ne critique pas. Mais le talentueux, l'ambitieux Manuel Valls pourra faire de l'ombre au président. Une décision risquée au président Bruno Duvivier nous explique. En nommant Manuel Valls à Matignon, François Hollande prend un risque considérable pour son propre avenir politique. Car de deux choses l'une, ou Valls réussit, il devient un rival sérieux pour le président dans la perspective de 2017, ou il échoue, et c'est le quinquennat qui part à l'eau, avec au bout du chemin du fait inéluctable. Mais François Hollande avait-il vraiment le choix ? Le républicain Laura, lui, n'interprète pas la décision de François Hollande comme une prise en main de la situation. Non, même au contraire, comme s'il subissait les derniers événements. Devoir nommer Premier ministre un rival pétri d'ambition à la popularité, très supérieure à la sienne, et pour un président de la Ve République, un lamentable aveu de faiblesse. Selon l'Alsace, cette décision est risquée, aussi bien pour Valls que pour François Hollande. Cette nomination a tout du cadeau empoisonné. En cas de réussite, le chef d'État tirera les marrons du feu en 2017. En cas d'échec, il aura éliminé son principal concurrent à gauche, immolé comme son prédécesseur.
Et la majorité du peuple de droite dans tout ça ?
La droite ?
Oui, Rémi, la droite. La droite qui était majoritaire dans les urnes ce week-end. D'après les quotidiens, la droite est satisfaite par ce choix. Les Échos définissent même Valls comme le Sarko de gauche. D'après l'UMA et l'Alsace, il incarne le courant le plus à droite du Parti Socialiste. Manuel Valls est même apprécié d'une partie de l'électorat de droite. La Dépêche du Midi analyse le rôle que devra porter le Premier ministre. En un mot, redonner une cohérence à l'action gouvernementale et une autorité à la parole politique. Dans tous les cas...
Le changement, c'est maintenant.
Enfin, il aurait dû être il y a 2 ans. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin, bref.
Bon courage, Manuel Valls.
Merci, Aminata. On te retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau Périscope. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée en juin, présentée ce soir par Gildas, notre stagiaire.
Ce soir, si vous voulez écouter de la pop-rock ou voir une expo photo ou une démo robotique, allez au théâtre en bois à 20h et comptez entre 4 à 12 euros pour l'entrée. En même temps, la compagnie Word Forward présente une pièce de théâtre, In Friendship, en anglais sur les mœurs américains, au centre Jean Villard. L'entrée est gratuite. Si vous voulez être plus tranquille, allez voir le film La Belle Vie, qui sort en avant-première au 400 coups. C'est à 20h15 et prévoyez 4,70€ pour l'entrée. Si vous voulez écouter de la musique classique, direction le conservatoire à rayonnement régional et l'orchestre symphonique et les orchestres d'harmonie vous proposeront un concert ainsi la nuit. Ça commence à 20h30 et ça coûte 3€. Bon allez, si vous voulez bouger et vous éclater, le label Buzz Médiatique organise une soirée musique connectée au Shabada avec Catfish, Andrea Nicola et DJ Elena. Ça commence à 20h45, il faudra prévoir de 10 à 15€. Benjamin Piat sera au 7e rencontre de l'IRE et ça se passe à la CCI de Maine-et-Loire. Pas besoin de prévoir de l'argent car c'est gratuit. Une dancehall session est organisée avec entre autres Ruff and Tuff et DJ Smoka au Jacaré à 21h. Pour finir, Batwin et Atea Live Electro seront au T-Rock Coco à 21h30. En plus, l'entrée est gratuite.
Merci Gildas, on te retrouvera demain pour l'agenda du vendredi soir. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediffusion demain dès 13h sur nos ondes. On vous laisse avec la bulle sonore. Dans l'artichaut, hier soir, Zazie a promené son micro auprès de modèles vivants. Elle raconte la difficulté de tenir immobile. Vous pouvez réécouter la totalité de l'émission sur notre site internet. Allez, passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Mais on se rendait pas compte, nous, quand on observait des modèles
non,
vivants.
C'est complexe.
On voyait pas qu'ils avaient mal. On était là, ah bah, il arrive pas à tenir. Enfin, ouais. Énervé à moitié parce que non, toi, tu peux pas tenir debout. Ça. Ça. Et quand tu fais, tu vois les marques après aussi, t'es, et
tu peux plus bouger, t'es là, genre.
Ouais, tu peux plus te bouger ouais. Et t'es là. Non, vous vous rendez pas compte. Enfin, vous avez l'impression ouais. Que c'est facile.
Déjà, la dernière fois, j'avais le pied posé d'une certaine manière et en fait, ça faisait que le sang passait pas bien dans la jambe, tu ouais. Vois. Et enfin, la jambe placée d'une certaine manière. Et du coup, au fur et à mesure que les gens modelaient l'argile. T'avais mon pied qui devenait, enfin ma jambe qui devenait toute dure et j'ai dû tenir 3 quarts d'heure à peu près. Et à un moment, je me suis dit putain, il faut que je bouge au moins un doigt de pied parce que là ça va plus, tu vois. Et quand j'ai essayé de contrôler mon doigt de pied avec ma tête, ça a pas fonctionné, tu vois. Je pouvais plus la bouger. Et je trouvais ça assez poétique et marrant, tu vois, de se dire c'est marrant parce que d'un côté, t'as des types qui sont en train de bidouiller de la terre pour essayer que ça te ressemble. Et puis moi,
du coup, t'as changé de pose ?
Non.
T'es
en train de te transformer en pierre. Il y a des poses longues. La dernière fois, il y a Elodie qui m'a fait faire des poses de 30 secondes, 1 minute.
Ah, je l'ai fait aussi. Ah, j'ai jamais fait, c'est vraiment drôle ça.
Parce que pour le coup, tu fais des poses hyper géniques et là, tu peux vraiment t'amuser et, ouais, et tu restes dans des trucs beaucoup
des
plus.
Des contorsions complètes, ouais,
c'est ça. Le moment aussi où t'entends les réflexions sur ton corps.
Oui,
tu sais, ça c'est assez.
C'est assez rude. Mais c'est pour ça, je disais, c'est pas parce que je bouge pas que je vous entends pas.
Enfin, tu vois, c'est étrange de savoir. Où tu te places parce que tu sais pas du tout. Enfin, puis tu vois les jambes modelées, tu vois des formes qui se créent, tu te dis putain, je suis vraiment comme ça, je suis vraiment aussi épaisse. Et des fois, le prof va dire mais non.
Les adultes, par contre, sont hyper agréables, moi je trouve.
Ouais. Bah, c'est ce que je te disais hier, et là, t'as vu l'histoire avec Mathieu.
Ouais.
Genre, Mathieu donnait un exercice et il fallait surtout pas dégommer. Et moi, j'étais posée, tu vois. Enfin, je te l'ai raconté, ça. Puis genre, je vois une dame derrière moi, tu vois, qui était en train de dessiner, puis elle gomme, puis je la regarde et je rigole, enfin, j'esquisse un sourire, elle me fait. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, elle me pose la question, qu'est-ce qu'il y a ? Puis je fais, faut pas gommer ! En rigolant, tu vois. Et là, elle dit tout fort, mais depuis quand le modèle parle ?
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.